on produit pour avoir une meilleure vie, on ne va pas produire de manière à nous autodétruire.
Ils veulent être plus forts que la planète, donc ça va pas bien.
Notre maison brûle.
How dare you?
Les chroniques du hérisson.
Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème.
Une émission proposée par la FRAPNA.
Bonjour à toutes et tous, vous écoutez les chroniques du hérisson, une émission pleine de piquants présentée par la FRAPNA, la Fédération des associations de protection de la nature de l'Ardèche. Dans ces chroniques, nous traitons de l'écologie sous toutes ses formes, la culture, l'art, la philosophie, les sciences et les initiatives locales. La nature est partout et vous invite à ce rendez-vous frapnesque sur fréquence 7. Aujourd'hui, nous parlons de collectifs et d'initiatives citoyennes. Je vous emmène à l'ouest, du côté de Toulouse, une ville dynamique et pleine d'initiatives. J'y ai passé quelques jours en octobre et à cette occasion, j'ai eu le plaisir de retrouver Paul Eddy, un militant écologiste que je n'avais pas revu depuis des années et qui m'a parlé de son projet de création de la base Toulouse, une base d'action sociale et écologique, un lieu de rassemblement pour toutes les associations et les personnes s'impliquant dans les luttes écologistes, mais aussi un lieu d'accueil pour toutes les personnes qui souhaitent déjà comprendre les enjeux environnementaux et climatiques. Je ne vous en dis pas plus, retrouvons-le tout de suite chez lui, c'était le 7 octobre. Bonjour Paul, merci de me recevoir chez toi dans le quartier de Rangueil à Toulouse. Alors, pour commencer, il me semble que des projets de base naissent un peu partout en France. Peux-tu nous en parler, s'il te plaît ?
Alors, en effet, c'est un premier point. À la base, on a appelé ça Alternatibase, parce que ça vient du collectif et du mouvement Alternatiba, qui a, dans sa stratégie, défini qu'il était intéressant d'ouvrir des lieux militants un peu partout sur le territoire pour soutenir les activités locales des groupes qui œuvrent pour la justice climatique et sociale. Donc à Toulouse comme ailleurs, on a vu fleurir des projets comme ça. Et à Toulouse, on est en cours de création. Il y a aussi des villes où c'est déjà bien entamé, où il y a déjà des bases qui sont ouvertes, qui fonctionnent. Voilà.
Et donc, toutes ces bases ont, disons, un cahier des charges, une charte commune, ou possèdent-elles chacune des singularités en fonction du lieu ou des personnes qui prennent part au projet ?
Alors j'ai envie de dire les deux. Bien sûr, chaque base est singulière. Par contre, le projet est unifié par une charte des bases qui s'assure que on œuvre tous à peu près dans le même sens, qui est celui de la justice climatique, écologique et sociale, et que ce soit des projets militants. C'est un lieu où on vient pour rencontrer, pour militer, pour s'informer, se mobiliser contre des projets, se mobiliser pour créer ou pour promouvoir des alternatives de vie, pour organiser des marches ou des actions ou ce genre de choses. Après, à Toulouse, on n'a pas encore décidé ce qu'on allait faire, mais ce qui est déjà sûr, c'est qu'on est 6 ou 7 collectifs réunis pour ouvrir la base Toulouse. Et dans d'autres villes, c'est uniquement Alternatiba. Donc c'est des Alternatibas à proprement parler. Dans d'autres villes, il y a d'autres collectifs. À Toulouse, on retrouve Alternatiba, ANV COP21, Greenpeace, Les Amis de la Terre, Extinction Rébellion, et les Faucheurs Volontaires. Et Youth for Climate aussi, dans une petite mesure.
Et alors, au sein de ce lieu, il va y avoir, j'imagine, plusieurs espaces. Comment tout cela va s'articuler ?
Alors, une large part dépendra du lieu qu'on aura, bien sûr. Mais notre travail s'est structuré autour de 3 axes. Le premier, c'est la convivialité, c'est la rencontre. Et c'est pour ça qu'on va ouvrir un bar associatif, un café associatif. Un lieu informel où on peut rencontrer des gens facilement, sachant que jusqu'ici, la plupart de nos collectifs n'ont pas de locaux, donc pas d'endroit où se rencontrer facilement, on doit squatter ici et là. Et donc ça, c'est le premier axe. Le second axe, c'est un lieu de travail. C'est un lieu qui va nous permettre de tenir nos réunions de manière régulière, toujours au même endroit, avec des habitudes qui vont se créer, plutôt que de devoir transporter tous nos militants d'un endroit à l'autre en fonction des salles disponibles. Et le troisième, qui est un petit peu lié, c'est un lieu de logistique où on pourra avoir du matériel et ne plus se poser la question de où est telle banderole et où sont tels objets chez l'un, chez l'autre, dans tel local qu'on nous prête mais qui va fermer bientôt, etc. Voilà, donc c'est autour de ces trois axes. Le bar, c'est aussi le moyen pour nous de nous rémunérer. Pas de nous rémunérer les humains, hein, mais de financer le projet, c'est-à-dire de payer le loyer qu'on va devoir payer, tout simplement.
Et avant d'avoir ce projet de vous réunir entre toutes ces associations, est-ce que vous aviez déjà travaillé ensemble avec des habitudes de travail ? Et aujourd'hui, grâce à la base, est-ce que vous envisagez de développer des projets collectifs, inter-associatifs de plus grande envergure ?
Oui, c'est une très bonne question parce que post-Covid, post-confinement, on s'est rendu compte qu'on était plutôt exsangue de militants. On avait perdu beaucoup de force. Beaucoup de gens se sont recentrés sur leur famille, etc. Enfin, je ne vais pas vous décrire ici les effets du Covid qui sont nombreux et complexes. Mais en tout cas, on a ressenti un fort besoin de travailler ensemble entre les associations qui se connaissaient un peu, mais qui ne travaillaient pas encore ensemble. Et donc, c'est ce qu'on a fait autour d'Alternatiba, avec Greenpeace, avec les Amis de la Terre, avec d'autres assos. Pas mal de collaborations entre les groupes de désobéissance civile, ANV COP21 et Extinction Rebellion aussi. Donc, y avait un peu plus que des embryons, mais pas non plus des collaborations très poussées sur la durée, sur des projets importants. Et le but de la base, enfin un des buts de la base, ça va être effectivement de faciliter cette mobilisation inter-orga entre plusieurs collectifs, plusieurs organisations, avec chacune leur spécificité, parce que nous savons que nos combats sont très liés, voire très similaires parfois, et qu'en fait on n'est pas une seule et même organisation, bah parce que les humains fonctionnent comme ça, ils se regroupent autour de choses qui constituent une petite histoire, et aussi autour de certaines manières de travailler, des méthodes de travail, des quelques visions stratégiques qui ne sont pas exactement les mêmes, mais qui ont du sens en soi et qui forment une richesse globale sur laquelle on va pouvoir essayer de fonder une mobilisation plus dense. Voilà.
Il y a aussi une question que je me posais sur l'ouverture de ce lieu. Est-ce que vous avez déjà des retours d'expérience des autres bases qui ont été créées en France pour savoir si ailleurs ça a permis d'accueillir un plus large public ? Car l'intérêt, c'est de se réunir entre militants, mais aussi de pouvoir impliquer de nouvelles personnes qui souhaiteraient s'investir, mais qui ne connaissent pas ce milieu, qui ne savent pas trop vers où se tourner ou qui sont encore dans une phase de questionnement. Donc est-ce que vous avez des premiers retours à ce niveau-là ?
Oui, là encore, c'est une bonne question. En fait, l'expérience qu'on a au niveau national, c'est que toutes les bases qui ont été ouvertes, qu'elles soient en inter-orga ou uniquement un groupe Alternatiba, toutes les bases qui ont été ouvertes ont été des formidables accélérateurs de mobilisation. Ça s'explique parce que, d'une part, lorsqu'il y a besoin de faire tourner un lieu, de le faire vivre, on touche un public de personnes qui se sentent intéressé par ce bénévolat-là, qui est très concret, qui consiste à tenir une permanence derrière un bar, qui consiste à faire un peu de gestion, qui consiste à aller chercher du matériel, à le ramener, à organiser des soirées, etc. Mais ancré dans un lieu, ces personnes qu'on va toucher et qu'on touche déjà dans d'autres endroits que Toulouse, c'est des personnes qui ne se seraient pas investies naturellement dans des mouvements qui ont pour socle commun une vision militante, parfois un peu abstraite, parfois un peu déprimante, parce que le contexte écologique est celui qu'on connaît actuellement. Donc ça permet vraiment de toucher ce public-là, que je définis pas très précisément d'ailleurs, hein, comme public, mais des personnes qui trouvent de la joie à s'investir concrètement dans un lieu. Mais l'idée, c'est que, avec cette collaboration étroite et ancrée dans un lieu, on va pouvoir définir des projets communs, surtout, entre intercollectifs, et aussi s'ouvrir plus, sortir un peu de l'entre-soi parfois, qu'on peut avoir, et avoir des visions plus ancrées dans le réel, peut-être. Je dis pas qu'on est hors sol, hein, nous on est très. On se trouve. Pas trop mal ancré dans le réel quand même, mais à force de militer, c'est bien aussi d'avoir des relations de voisinage, par exemple, tout simplement. On va avoir une maison, donc enfin un lieu, donc on va forcément avoir des voisins, donc on va forcément discuter avec eux, et peut-être que des problématiques qu'on n'avait pas envisagées jusque-là vont émerger.
Alors, il y a une dernière question que je voulais te poser, Paul, qui s'appuie la plus sur ton expérience personnelle. Nous, on s'est rencontrés il y a 6 ans aux Altervillages d'Attaque, un événement militant et d'éducation populaire. Depuis cette rencontre, on a fait chacun notre petit bout de chemin. Aujourd'hui, tu as passé la trentaine, avec derrière toi une première décennie de militantisme pour l'écologie, le climat et la justice sociale. Quel premier bilan tu retires de ces années de mobilisation ?
Waouh, c'est une très vaste question. C'est vraiment une vaste question. Je crois qu'il y a quelque chose qui est un petit peu évident. C'est que les choses vont mal. Elles allaient déjà mal quand j'ai commencé à m'engager, il y a 8 ans. Et elles vont pas mieux. Je vais éviter de dire qu'elles vont pire, parce que c'est à la fois très difficile d'avoir une vision précise, et à la fois il se passe tellement de belles choses, et de choses qui donnent de l'espoir. Clairement, il y a quand même... On est très loin d'avoir gagné et la bataille culturelle et la bataille politique. Il y a deux mouvements en parallèle. Il y a le mouvement de la croissance qui continue et donc qui s'accélère. Et on est vraiment pieds et poings liés à ce niveau-là. Et on ne peut que regarder la voiture qui appuie sur l'accélérateur alors que le mur est devant. Et en parallèle, il y a aussi un mouvement de prise de conscience et d'agissement, d'action, de mise en mouvement des gens sur la thématique écologique qui me semble sans précédent depuis les mobilisations historiques des années 70 ou comme ça, quand le mouvement écologiste moderne est né, on va dire. Et du coup, voilà, il y a ces deux forces. Il y en a une qui est beaucoup plus faible que l'autre, mais qui est très vivace. Il y a aussi le fait que globalement, l'histoire s'accélère. On est à une période de plus en plus chaotique, dans le sens où ça devient presque impossible de prévoir ce qui va se passer dans quelques années. Donc, tant au niveau effondrement écologique d'une manière générale, dans les derniers constats, ça s'avère pire que les prévisions des scientifiques. Qu'au niveau politique, qu'au niveau société du village-monde, où on voit vraiment que des choses sont en train de tourner. Voilà, la guerre est revenue en Europe, on l'avait chassée un peu ailleurs, la vieille guerre froide a changé un peu de visage, mais en fait on a toujours une conflictualité très 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 puissante et un impérialisme très puissant. Mais beaucoup d'autres choses sont à prendre en compte. Voilà, je ne suis pas ici pour parler géopolitique, mais tout ça pour dire que le bilan que je tire globalement de mes années de mobilisation, il y a beaucoup de choses qui sont assez décourageantes, mais il y a aussi beaucoup d'incertitudes et d'espoir. Et moi, c'est le sens de mon militantisme actuellement. À une époque, j'étais 100% de mon temps dédié au militantisme. Maintenant, je dois gagner ma vie un peu plus. Enfin, disons que, sans rentrer dans les détails, j'ai monté un projet qui me permet de gagner ma vie. Et du coup, j'ai moins de temps pour le militantisme. Mais il n'est pas question pour moi de m'arrêter. À la fois, il y a beaucoup de personnes qui ont changé de militantisme et qui sont plutôt allées ouvrir un écolieu parce que ça, c'est concret et ça évite aussi de se décourager face aux murs politiques. Moi, je pense qu'il faut être sur tous les fronts et continuer. En fait. Et je pense que la stratégie qui est celle d'Alternativa à NVCOP21 depuis le début, c'est-à-dire de créer un mouvement de masse, en tout cas cet élément de stratégie-là, je pense qu'il est toujours valable, et que mine de rien, il n'y a pas un mouvement de masse, mais il y a des masses en mouvement, quoi.
Un joli mot de fin. Et pour terminer sur de belles métaphores, j'en profite pour reprendre les mots d'un de nos administrateurs à la FRAPNA, qui, il y a quelques années, avait écrit, je cite, « Je rêve que partout, partout, vite, la mobilisation générale, car il n'y a plus que cela, enfle inexorablement, diverse mais unifiée, efficace comme un immense fleuve en crue emportant tout sur son passage et fécondant à nouveau la terre d'un limon fertile et fraternel suscitant la compréhension. C'est de cela que nous avons besoin, et ce fleuve, ça ne peut être que nous tous. » Alors, je propose de terminer là-dessus. Merci Paul d'avoir répondu à mes questions.
Merci pour l'interview, Lorraine.
Notre épisode des Chroniques du Hérisson se termine. J'espère que le témoignage de Paul a pu parler à certains. Ce qui sera encore plus beau, c'est que ça puisse même éveiller quelques âmes militantes en Ardèche, qui sait. Sachez en tout cas que les bases n'existent pas seulement en ville, mais aussi sur des territoires ruraux. D'ailleurs, en ce moment, il y a un projet de base qui est en discussion du côté de Privas. Alors c'est le tout début pour le moment, mais on va essayer de suivre ça de plus près. En attendant, je remercie encore Paul Eddy et je vous donne rendez-vous le 2 décembre pour une nouvelle émission. À bientôt.